Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors que nous vivons encore une pandémie de Covid, nous voulions revenir sur l'autre crise sanitaire majeure des 40 dernières années. Je parle évidemment du syndrome immunodéficience acquise, le SIDA. 1981 et les débuts de cette pandémie nous paraissent bien loin. Il y a eu de nombreux progrès dans la lutte de cette maladie infectieuse provoquée par le virus immunodéficience humaine, le VIH, en commençant bien sûr par ceux de la recherche avec la découverte de la trithérapie, mais aussi des avancées politiques et juridiques importantes. Pourrions-nous faire des parallèles entre les deux pandémies et même en tirer quelques leçons pour parvenir à mieux vivre avec la Covid? Et aussi, comment vit-on en 2022 avec le VIH? Nous en parlons tout de suite, restez là. À Je vote pour la science, nous voulons reparler d'une autre crise sanitaire majeure et d'un autre virus qui sévit depuis 40 ans et fait des ravages au sein de nombreuses communautés du monde entier. Je veux parler du VIH et donc du SIDA. Comment vit-on en 2022 avec le SIDA? Pour en parler, nous sommes en compagnie du professeur Mohamed Ali Genabian. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunovirologie et professeur agrégé au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
On est aussi en compagnie de Yannick Villedieu, journaliste, animateur et conférencier spécialisé en sciences et en médecine et pendant 35 ans l'animateur de l'émission de vulgarisation scientifique Les années lumière à Radio-Canada et auteur de nombreux ouvrages en santé aussi, dont le plus récent, Le deuil et la lumière, une histoire du sida, publié chez Boréal. Bonjour.
Bonjour.
Le sida est une crise sanitaire majeure et donc ça fait 40 ans que le VIH fait des ravages. Il anime toujours la communauté scientifique. Le 16 mars dernier avait lieu d'ailleurs l'édition 2022 des Journées québécoises du VIH où se discutaient les enjeux de santé mentale et sexuelle, de politique, de prévention ou encore même d'accès universel aux soins. Pour commencer, pourquoi est-ce important de parler encore du sida en 2022, de la recherche, mais aussi des personnes qui vivent avec cette dramatique maladie infectieuse? Je vais commencer avec vous, professeur Genabian.
Merci. Donc, comme vous avez mentionné, la pandémie au VIH, c'est une des deux pandémies actuelles qui existent depuis 40 ans déjà. Et il y a des enjeux assez importants associés à cette maladie, à cette infection et cette pandémie qui persiste depuis 40 ans. À titre d'information, aujourd'hui même, on a environ 38 millions de personnes qui vivent avec ce virus dans le monde et qu'il y a un taux d'infection, de nouvelles infections au niveau global, à peu près 2 millions de personnes par an. Et on a 700 morts liées à l'infection au VIH. Donc, comme vous voyez, déjà au niveau des gens vivant avec le VIH, on a encore les taux de nouvelles infections, la mortalité à ce virus. Le traitement, malgré que c'est bien avancé, ce n'est pas efficace encore. Donc, c'est une maladie à vie qui persiste, qui se guérit pas. Et voilà, donc ça constitue encore comme une maladie importante, une infection importante, une pandémie, qu'il n'y a pas d'un vaccin préventif encore et qu'il n'y a pas une stratégie de guérison et le traitement, c'est juste pour contrôler la réplication virale, mais ça n'arrive pas à éliminer ce virus.
Oui, donc vous l'avez compris, c'est encore important d'en parler et même de l'écrire, Monsieur Villedieu.
Oui, ben, c'est un peu une question que plusieurs personnes m'ont posée quand j'ai sorti, publié mon livre, c'était en novembre dernier, donc « Le deuil et la lumière », une histoire du sida. Les gens m'ont dit « Mais pourquoi parler du sida ?» Ben, je dis « Parce que c'est encore une maladie qui existe encore, hein, comme on vient de le dire, comme mon collègue vient de le dire, entre 700 000 et 1 million de décès par année dus au sida, encore aujourd'hui, hein, c'est important. Et puis ça, c'est la première, la raison, donc cette pandémie n'est pas terminée. Puis la deuxième raison, c'est que c'est encore, au point de vue scientifique, un sujet extrêmement important, et on vient de le signaler, on a des médicaments qui permettent de contrôler l'infection, qui font que les personnes qui portent le VIH, qui sont bien traitées, qui répondent bien au traitement, ont une espérance de vie très comparable à l'espérance de vie des gens qui ne sont pas séropositifs. Mais on ne sait toujours pas comment guérir cette infection, comment effectivement donc se débarrasser du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. Donc ça fait au moins deux très bonnes raisons pour dire que le sida, c'est encore une question d'actualité.
Oui, tout à fait. Cette infection au VIH-Sida qui sévit depuis 40 ans, pourquoi nous n'en sommes pas venus à bout, professeur Chenabian ?
Mais il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un virus qui mute très rapidement. Donc, si on peut faire une petite comparaison par rapport à la deuxième pandémie actuelle depuis 2 ans et demi, le Covid-19, actuellement, le nombre de variants virales qui se circulent au niveau global, ça se limite à 14, et que c'est largement dominé par deux seuls variants. Tandis que avec les mutations et les changements génétiques, ce virus se fait. Chez le même individu qui est infecté par le virus, on peut avoir des centaines et des centaines, des milliers de variants. Donc vous voyez, c'est un virus qui se modifie largement. Et donc, le développement de vaccins préventifs qui puissent protéger contre cette diversité énorme de variantes infectieuses est un enjeu très majeur. Donc, c'est pour ça que pratiquement tous les essais vaccinaux à date n'ont rien donné. Il y avait des échecs. Et deuxièmement, comme ça a été dit aussi, c'est un virus qui s'intègre son génome au sein du génome de cellules immunitaires des lymphocytes TCD4, on les appelle majoritairement. Et donc, ça affaiblit d'abord son cible majeure sur le système immunitaire. Ça affaiblit largement et progressivement le système immunitaire. Et donc, comme son génome est intégré dans le génome humain, c'est la barrière principale pour les guérisons de cette maladie, cette infection. Donc, ça reste encore beaucoup encore à apprendre comment ce virus se cache dans certaines cellules, dans certaines tissus anatomiques et comment on peut avoir des vaccins préventifs. Ce sont les enjeux majeurs et continuels qu'on n'a pas encore une solution.
Monsieur Villedieu, est-ce que vous voyez vous aussi des parallèles entre les deux crises sanitaires ?
Ben, oui, il y a des parallèles. D'abord, ce sont deux pandémies, hein, c'est quand même tout à fait remarquable. Ensuite, ce sont deux pandémies qui sont causées par des agents infectieux, des virus nouveaux, qui donc c'est des maladies émergentes. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que effectivement, on est face à une situation où on a eu, on a et on aura encore de nouveaux agents infectieux qui vont causer qui causent des pandémies. Alors ça, c'est un parallèle. L'autre parallèle qu'on peut faire, l'autre rapprochement qu'on peut faire, c'est que ce sont deux zoonoses. Hein, donc le mot, tout le monde l'a appris avec la Covid, ce sont deux maladies qui viennent originellement de l'animal, du singe dans le cas du VIH, du virus du sida, et de la chauve-souris dans le cas de la Covid. Alors ça, ce sont deux parallèles, c'est intéressant parce que notre relation avec le monde animal, avec l'environnement, avec l'écologie, avec la nature sauvage au fond, est importante, est en cause au fond dans cette l'apparition de ces maladies-là. Donc ce sont des parallèles qu'on peut faire, mais effectivement, comme dit le docteur Chenabian, il y a vraiment des grandes différences, notamment ce fameux temps d'incubation. Hein. Le virus du sida, vous pouvez l'avoir et le transmettre pendant de très nombreuses années sans le savoir. Dans le cas de la Covid, c'est quelques jours. L'autre immense différence, c'est que effectivement, le virus du sida, quand vous l'avez pour toujours. Alors que et si c'était pas traité, il y aurait un taux de mortalité probablement très 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 élevé. Alors que dans le cas de la Covid, ben vous l'avez, vous vous en débarrassez, ça dure quelques jours et le taux de mortalité est très 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 bas par rapport au sida. Donc il y a quand même des différences importantes entre les deux, des parallèles, mais beaucoup de différences entre les deux, oui.
Oui, professeur Chenabian, quelles sont les méthodes préventives actuelles pour diminuer le risque de transmission du VIH, justement ?
Bon, il y a, en absence d'un vaccin préventif qui est idéal, en fait, dans le contexte de maladies transmissibles, en absence de ça, il y a certaines méthodes qui sont très efficaces, mais pas forcément appliquées partout. C'est pour ça qu'on a effectivement un taux assez élevé de nouveaux cas de nouvelles infections. La première chose, c'est de barrières physiques lors des rapports sexuels. Le condom, le préservatif, ce qui est le plus utilisé largement, mais quand même, comme on le sait, dans certains settings, c'est pas toujours accessible ou accepté par certaines personnes. Une autre méthode aussi qui a démontré son efficacité, qui a réussi à diminuer jusqu'à 70% le taux de transmission, c'est la circoncision chez les hommes. Ça a été fait dans les grands essais et que ça a démontré que ça peut diminuer largement le taux de transmission hétérosexuel ou homosexuel. Il y a les méthodologies pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments. On a une stratégie qui est très efficace, qui s'appelle PrEP. La prophylaxie pré-exposition. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si quelqu'un qui est séronégatif, qui risque, qui souhaite avoir le rapport sexuel avec quelqu'un potentiellement séropositif, prendre le médicament antirétroviraux avant d'avoir le rapport. Et donc, ça aussi, ça a démontré, même dans les essais à grande échelle internationaux dont l'homoral faisait partie, a diminué largement le taux de transmission. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on l'appelle PEP, c'est-à-dire la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été d'une manière à l'autre exposé au virus, ça pourrait être sexuel ou transmission, se couper la main, etc., etc., ces individus prennent les traitements antirétroviraux pour une durée de au moins 3 semaines. Et ça a aussi démontré, ça a été démontré scientifiquement, plutôt qu'en introduit et démarrer le traitement, ça peut vraiment contrôler l'infection d'une manière très importante et l'abîmation du système immunitaire.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Une des portes de sortie de la COVID, c'est la vaccination, mais il n'y a pas de vaccin préventif pour le VIH. Monsieur Villedieu, la riposte au sida provient à la fois du fruit de la recherche fondamentale et clinique, mais aussi du rôle déterminant des activistes et des associations de malades, n'est-ce pas?
Oui, et ça c'est quelque chose qui a été tout à fait important et caractéristique du sida, c'est que dès le début, hein, moi je me souviens, j'étais donc dans les premières conférences internationales, etc., au début des années 80, c'est que dès le début, les patients, les malades, qui étaient des jeunes, qui étaient déjà organisés comme groupe, puisque les homosexuels s'étaient organisés pour faire face à l'homophobie, hein, notamment à San Francisco après l'assassinat d'un conseiller municipal gay à la fin des années 70. Donc il y avait une mobilisation immédiate des groupes de malades, de patients ou des groupes donc qui se sont battus pour faire avancer la recherche, pour faire en sorte que les compagnies pharmaceutiques s'impliquent davantage, pour faire en sorte que les gouvernements aussi s'intéressent à la question, mettent des fonds dans la recherche. Il y avait une urgence de trouver qui était demandée par les groupes activistes. Et notamment, on connaît par exemple le groupe ACT UP, hein, qui a été créé au milieu des années 80 à New York et qui a fait des associations frères un peu partout dans le monde. Ces associations-là ont fait en sorte que le sida a été mis dans l'actualité, a été mis dans les débats, on a demandé des investissements, etc. Donc oui, les patients ont joué un rôle fondamental, et ce rôle-là, c'était un renversement de rôle par rapport à ce que on connaissait jusqu'alors. Jusqu'alors, le patient était justement un patient, il écoutait l'expert, le médecin, il n'avait rien à dire, ou à peu près, il se sentait tout seul dans son cas, si vous voulez, moi, malade, devant mon médecin. Et là, tout à coup, les patients faisaient partie d'un groupe. Nous étions, les gens disaient, nous faisons partie de la communauté touchée par la maladie. Ils remettaient en cause, parfois même, le savoir des experts, des médecins. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'ai vu des empoignades formidables, hein, entre les activistes qui essayaient toutes sortes de médicaments avant la trithérapie quand il n'y avait rien, qui essayaient des fois par des essais un petit peu, disons, non conventionnels des produits, et les scientifiques qui disaient, bah, écoutez, il faut quand même faire des essais cliniques selon les règles de l'art, etc. Et donc, les patients ont joué un rôle, et les activistes ont joué un rôle fondamental dans l'épidémie, et ça s'est transféré après pour d'autres maladies, dans le cancer du sein, les maladies génétiques, etc., se sont toutes mises à au fond, d'une certaine façon, à imiter, hein, le petit ruban rouge, parce qu'on a eu le ruban rouge pour le cancer du sein, etc., après, le petit ruban rouge du sida. Et donc, ça a changé la relation entre le malade et l'expert, le chercheur, le médecin. Et ça, c'est fondamental. C'est un des grands apports, hein, de l'histoire du sida.
Oui, le début des patients partenaires. Quels sont les enjeux pour les personnes vivant avec le VIH, professeur Genabian?
Il y a deux enjeux majeurs, un qui est global au niveau de l'accès au traitement, accès aux médicaments comme il faut. Il y avait des objectifs déjà prédéterminés par l'Organisation mondiale de la santé, d'avoir 90% des gens qui sont infectés par le VIH, qui soient informés par leur infection et d'avoir accès au traitement. Ce n'est pas cet objectif n'est pas encore atteint. Donc ça c'est quand même l'accès global au traitement, surtout où dans plusieurs endroits avec les ressources limitées, n'est pas encore, ça reste encore un problématique très majeure. À part ça, ceux qui ont accès au traitement, il y a un enjeu très majeur qui persiste, c'est que malgré l'efficacité de traitement à inhiber la réplication virale, il y a une inflammation persistante causée à tous les dommages que ce virus fait dans le système immunitaire. Cette inflammation chronique persistante dérive un phénomène qu'on appelle le vieillissement inflammatoire, qui est accéléré chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, grâce à des traitements, on a moins de mortalité, le taux de mortalité. Donc, la population des gens vivant avec le VIH commence à se vieillir. Pour être concrète, entre 2011 et 2020, aux États-Unis, le nombre de personnes vivant avec le VIH plus de 50 ans à 37% est augmenté à 70%, c'est-à-dire que ça s'est doublé, les gens qui sont en train de vieillir avec ce virus. Avec ce phénomène de vieillissement inflammatoire accéléré, plusieurs comorbidités arrivent beaucoup plus tôt que la population générale non infectée. Encore une fois, pour être concrète, le taux des maladies cardiovasculaires chez les personnes vivant avec le VIH plus de 65 ans est 4 fois plus élevé, par exemple, athérosclérose, 4 fois plus élevé que la population générale. Donc, ce vieillissement accéléré aussi, c'est un enjeu très important qui affecte la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.
Oui, pendant 40 ans, la recherche scientifique sur le VIH a fait des bonds extraordinaires et mené à la trithérapie en 96, ce qui change le visage finalement de cette maladie, mais c'est une pandémie qui est loin d'être terminée, monsieur Villedieu.
Mais oui, on l'a dit, hein, tout à l'heure, il y a encore des des 38 millions de porteurs du VIH dans le monde, au moins. Il y a encore entre 700 000 et 2 millions et 1 million de décès par année. Donc, c'est effectivement, c'est encore une pandémie qui est très, très, très présente. Et comme a dit le professeur Genabian, je veux dire, il y a encore des défis scientifiques, médicaux et scientifiques. Si on revient au vaccin, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui m'a vraiment frappé au cours de la première semaine de février 2020. Le lundi ou mardi, disons, enfin peu importe, au cours de la première semaine, on annonce la fin d'un xème essai de vaccin à grande échelle en Afrique du Sud, hein, contre le VIH, parce que c'est pas efficace. Ça fait plusieurs dizaines d'essais qu'on a depuis pas loin de 40 ans pour un vaccin contre le VIH. Ça, c'est au début de la semaine, de la première semaine de 2020. À la fin de la même semaine, quelques jours après, donc, la compagnie Moderna annonce, alors le virus du sida, ça fait 40 ans qu'on le connaît, quelques jours après, la compagnie Moderna annonce la sortie de son premier lot d'un vaccin contre la COVID. Hein, un virus qu'on a découvert il y a un mois et demi, dont on a la séquence génétique seulement depuis 2-3 semaines. Alors, ça vous donne, il y a une image extraordinaire qu'il y a là-dedans. C'est que, effectivement, dans le cas du virus du sida, comme on vient de le dire, comme on l'a dit, il y a tellement de variabilité, il y a le fait qu'il s'attaque au système immunitaire lui-même, donc le système normalement de défense contre les infections, contre lesquels on n'a toujours pas de vaccin préventif. Et dans l'autre cas, bon, on a, grâce à la recherche scientifique fondamentale, notamment sur les ARN messagers depuis 20 ou 30 ans, hein, le vaccin n'est pas sorti du chapeau du magicien, on a en quelques jours réussi à faire un vaccin. Dieu merci, on a ce vaccin-là d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas où on en serait actuellement. Alors voilà, donc cette image entre les deux réalités est extrêmement importante, et même s'il y a de la recherche fondamentale incroyable qui s'est faite sur le VIH depuis 40 ans, on piétine toujours un peu, on a toujours ce défi d'une maladie qui n'est pas terminée, qui n'est pas éradiquée. Il y a des gens qui parlent de la possibilité d'un monde sans sida en 2030. Bon, c'est un bel objectif, mais c'est un beau rêve en même temps.
Oui, c'est un rêve, peut-être un espoir. Professeur Genabian, pourquoi il n'y a pas de stratégie curative ou encore de guérison pour le VIH, selon vous?
Comme j'ai dit au début, c'est un virus qui se cache dans certaines cellules humaines, les cellules immunitaires, notamment les cellules lymphocytes TCD4. Et la façon, c'est que le virus intègre son matériel génétique au sein de génome de cellules hôtes humaines. Donc, dès que le traitement soit d'une manière ou l'autre interrompu, au bout de 2 semaines à peu près, on a un cycle de réplication virale qui s'active. Donc, finalement, ces cellules dans lesquelles le virus est caché d'une manière endormie, à long terme, qu'on appelle les réservoirs latents, c'est la barrière la plus importante au niveau d'éradication. Ainsi, c'est un virus qui est largement diffusé dans plusieurs tissus humains, et donc la pénétration et l'accès de médicaments aussi dans certains tissus, par exemple le cerveau, l'appareil génital, etc., est beaucoup moins efficace. Donc, on a toujours une réplication virale résiduelle qui n'est pas détectable dans le sang, mais qui reste dans le tissu au niveau tissulaire et qui continue. Donc, les réservoirs viraux, c'est vraiment la barrière la plus importante et qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et on essaie d'avancer de notre côté aussi à Montréal, notamment au Québec. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent notamment dans ce domaine-là aussi.
Comment on couvre le sida comme journaliste scientifique durant tant d'années? La COVID, ça fait 2 ans que ça dure et on se sent parfois essoufflé d'en parler. Alors, comment on fait pour garder le fil de tout ça?
Mais parce que au début, le sida apparaît, il y a quelques cas, c'est une maladie curieuse qui semble toucher le premier article scientifique, hein, sur le sida, c'est 1981, avec 5 patients. Donc au début c'est tout petit, et c'est très curieux comme maladie, parce que effectivement il y a le paradoxe d'une maladie infectieuses qui s'attaquent au système de défense contre les infections, au système immunitaire. Alors donc c'est intéressant, scientifiquement parlant, et donc moi je me suis mis à couvrir ça d'abord par curiosité scientifique, en disant la première fois, je raconte ça dans mon livre, la première fois que j'en ai parlé à Radio-Canada, en disant oh, c'est une curiosité, ça, peut-être que ça ne va pas faire grand-chose. Donc je me suis vraiment trompé. Et donc j'étais pris un peu dans ce mouvement où tout à coup on découvrait l'ampleur d'un drame absolument incroyable. Et donc ça c'est la couverture comme journaliste scientifique se faisait à la fois sur essayer de comprendre la recherche. Je me rappelle les interviews que je faisais sur le système immunitaire, on comprenait tout en comprenant pas, en tout cas c'était bien compliqué. Et donc je me suis laissé embarquer d'une part par l'importance et le défi de la recherche scientifique, des questions scientifiques qui se posaient, mais aussi du drame humain qui se développait. Comme journaliste témoin d'un drame humain, mais aussi témoin d'avancées éblouissantes de la recherche. La trithérapie, en 1996, donc 15 ans après le premier article, la trithérapie, c'est le fruit de la recherche fondamentale. Et ça a changé complètement la donne. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui nous tenait en haleine et qui encore aujourd'hui, au point de vue scientifique, est très intéressant, on vient de le dire. La question des réservoirs dans lesquels se cache le virus, la question de la guérison éventuelle de la maladie, etc. Tout ça, c'est tout aussi fascinant. Donc ça entretenait la flamme journalistique.
Ce qui me motive depuis plusieurs années sur ce virus de travailler, continuer à travailler, c'est vraiment un aspect humain aussi. Ça a été déjà souligné. Je pense que le stigma encore existe vis-à-vis des gens vivant avec le VIH. Je pense que l'éducation des gens pour comment, par voie de différentes voies de prévention, c'est extrêmement important. Je pense que le rôle de médias, les activistes et nous-mêmes les scientifiques pour travailler ensemble, de notre côté avancer la science, de votre côté informer la population, c'est super important. Et plus qu'on arrive à augmenter le niveau de connaissance globale, à la fois chez les gens, monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde, pour se protéger et essayer de faire des activités pour sensibiliser les politiciens, les compagnies, pour investir encore dans la recherche. Puis encore une fois, il reste encore à faire. Ce n'est pas un cours de vitesse, c'est un marathon qu'il faut avancer tout ensemble.
Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie du professeur Mohamed Ali Genabian, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunovirologie de l'UQAM, et de Yannick Villedieu, journaliste, animateur, conférencier, auteur aussi. Donc, on vous mettra le lien vers son plus récent ouvrage, Le deuil et la lumière, une histoire du sida chez Boréal. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions du jeudi à votre radio et aussi sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la et passez une bonne semaine. Portez-vous bien.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.